énergies renouvelables,
désertification,
santé publique,
eau potable,
environnement médiatique,
développement durable,
technologie,
écologie,
économie,
droits humains,
questions
éthiques, respect de la vie,
politique internationale, biodiversité,
pollution, paix.
Cette semaine à Delirium environnemental pour vous divertir, mais surtout pour vous informer. On vous parle d'une tonne de choses de nouvelles environnementales. On vous parle entre autres de Projet Montréal. Et oui, il existe un troisième parti politique à Montréal, c'est Projet Montréal. On vous en parle. On vous parle de COP11, cette grande réunion qui s'en vient dans moins de 30 jours où est-ce que les gens du monde entier, les sbires du climat vont venir discuter de comment tout ça devrait évoluer. On vous parle de sacs de plastique, de grands émetteurs de gaz à effet de serre. On vous parle d'eau, d'embouteillage de l'eau, d'or et de bien d'autres choses. On va aussi parler avec, ben pas parler, mais j'ai posé une question toute simple à David Suzuki Ubarri cette semaine. Je leur ai demandé quel est le secret de votre patience. Ils répondent avec joie à cette petite question toute simple, mais ô combien complexe quand on nage en plein délire environnemental. On va bien sûr terminer avec les coups de cœur, coups de masse et au calendrier cette semaine. Encore une fois, plusieurs activités à saveur environnementale. Tal. Ça vient de Legendre au micro pour vous divertir, mais surtout, je l'espère, vous informer en compagnie de l'équipe Bionique. Équipe Bionique réduite cette semaine avec moi en studio, Nicolas Mainville. Bonjour.
Allô.
Et Mélanie Roussel, bonjour.
Bonjour.
Bien sûr, de Delirium environnemental, c'est également Claudie Desberges à la mise en onde, notre une nouvelle fille à l'équipe, enfin, en remplacement de Étienne Côté-Paluc, qui continue d'assurer la veille, pas médiatique, mais Internet, c'est-à-dire d'être notre webmestre en chef. C'est également en pensée Patrick Bonin et en pensée aussi cette semaine Nicolas Milo.
D'ailleurs, je ferais remarquer que c'est une première dans l'histoire de Delirium environnemental que la gente masculine est dominée par la gente féminine.
C'est vrai, plutôt rare. Alors, on en profite pour encourager Pauline Marois dans sa lutte.
C'était pas mon message.
Non, mais j'en ai profité comme ça pour glisser mon petit mot. Delirium environnemental, c'est bien sûr un magazine d'information radio en environnement, mais c'est également un site Internet que vous pouvez toujours trouver au www.radiodelirium.net. On commence l'humeur cette semaine. Vous savez, on aime bien commencer l'émission avec une petite humeur, ce qui nous fait réagir dans l'actualité. Eh bien, moi, ce qui me fait réagir dans l'actualité, vous savez, je suis extrêmement sensible à l'importance des médias, à leur influence dans nos sociétés modernes, particulièrement ici au Québec. Et puis, il se passe quelque chose présentement qui donne mal au cœur à plusieurs au chapitre de la démocratie. Parce que vous savez, il y aura des élections à Montréal, des élections municipales le 6 novembre au soir. Le 6 novembre, toute la journée, il y aura des élections municipales. Vous le savez, peut-être deux partis se proposent, en fait, les têtes de pipe de ces réseaux-là sont Monsieur Gérald Tremblay, je n'ai même pas le goût de dire son nom, il y a tellement de publicité, et Monsieur Pierre Bourque, de son petit nom Pierre Bourque. Il existe également un troisième parti politique qu'on n'invite pas au débat, les médias officiels couvrent pas ce parti-là. Pourtant, c'est un jeune parti, c'est vrai. Qui dit jeune dit peut-être a besoin d'un peu d'expérience, peut-être oui, mais a déjà des projets très intéressants, notamment en termes de transport urbain, notamment, mais aussi dans d'autres dossiers. C'est pour ça que ça me fait plaisir de commencer en vous annonçant qu'il y aura une soirée bénéfice pour Projet Montréal jeudi le 3 novembre, projet à 19h, qui va se passer au Lion d'Or. Il y aura plusieurs artistes invités, dont Christian Vanas et les Apartistes, Masse Poésie, Hurlevent, Syncope, Collectivo, etc. 10$ d'entrée, je pense que ça va être un beau party, puis ça vaut la peine d'aller voir un peu les gens de Projet Montréal. Ceux qui voudraient entendre le chef du parti, qui est M. Richard Bergeron, ils pourront le faire mercredi le 2 novembre, et je m'excuse, c'est à une heure bâtarde, mais je vous le dis quand même, de 12h30 à 14h au local AM050 à l'UQAM. Bien sûr, toutes ces informations-là seront sur notre site Internet à nous, qui est au www.radiodelirium.net. Projet Montréal, on en a souvent parlé. Nicolas, tu t'es souvent insurgé contre le manque de couverture médiatique. Un projet Montréal, somme toute, vraiment intéressant.
Je trouve ça particulier, justement, dans la situation politique montréalaise actuelle, où, dans le fond, sur toutes les tribunes, on dit « Coudonc, c'est donc bien plate, cette campagne-là. Il n'y a pas de bonnes idées. 500 millions pour les nids de poules. » On reproche aux deux partis de vouloir éviter tous les sujets de fond, tant du côté de l'équipe Bourque que de l'équipe Tremblay. Et pendant ce temps-là, on a un nouveau parti qui émerge avec des idées hallucinantes, avec une vision extrêmement constructive. Effectivement, ce ne sont pas des politiciens, faut le comprendre, c'est des gens qui arrivent de plein de domaines, qui se lancent en politique parce que, pour une simple et belle raison, les choses avancent pas assez vite, surtout sur la question du développement durable, urbain et de la question de l'environnement. Alors, les gens se mettent ensemble, 800 membres Projet Montréal, une vision tout à fait nouvelle, un programme constructif, mais la tribune leur est pas donnée et pendant ce temps-là, on chiale qu'il n'y a pas de vraies idées. Moi, je trouve que ça témoigne un peu du manque de démocratie de la vie montréalaise actuelle. Peut-être que, bon, on va faire notre petit bout de chemin ici avec Radio Alternative et justement Radio Communautaire qui apportent le message un peu plus de Projet Montréal. Mais c'est quand on regarde les débats principaux, CTV, v'là deux jours, Radio-Canada la semaine d'avant, qui ont d'ailleurs donné 5 minutes à Richard Bergeron en fin du débat pour justement avoir ses commentaires sur le débat des deux chefs principaux. Moi, je trouve ça incroyable.
Incroyable. On poursuit une autre chose de laquelle on n'entend pas encore beaucoup parler. Pourtant, on va en entendre beaucoup parler. Ça a commencé déjà, notamment avec l'alerte au climat qui a été lancée par M. David Suzuki ainsi que M. Hubert Reeves la semaine passée, organisée par Équiterre, cet organisme communautaire de Montréal qui travaille sur les questions d'environnement, notamment en proposant aux gens de se mettre eux-mêmes à changer leur monde, c'est-à-dire un geste à la fois. C'est vrai que c'est tous les jours qu'on change le monde. Pour tous ceux qui pensent que je ne pense pas dans cette direction-là, détrompez-vous. Oui, je sais, c'est tous les jours qu'on change le monde à la hauteur de nos possibles, par de petits gestes tout simples. Tout ça pour dire donc que le climat va être à l'ordre du jour au mois de novembre. Il nous reste moins de 30 jours avant ce grand événement qu'on appelle la COP 11. Vous en avez peut-être entendu parler. La COP 11, c'est parce que Montréal sera l'hôte du tout premier rendez-vous des pays signataires du protocole de Kyoto. On se souvient qu'il est rentré en vigueur le 16 février dernier et puis qu'on a décidé à ce moment-là que la conférence des parties signataires se tiendra à Montréal. C'est vraiment un événement d'envergure qui se tient à Montréal. C'est les discussions qui vont se tenir là vont être extrêmement importantes pour la suite des choses dans le dossier des changements climatiques. Pour ceux qui voudraient s'informer plus amplement, je pense que c'est important, vraiment, c'est le moment de se tenir informé. C'est un grand événement qui se tient à Montréal. Je vous référerais notamment à un événement qui est le rendez-vous citoyen Kyoto. Donc, pour avoir toutes les informations, vous allez avoir ça, bien sûr, sur leur site Internet à eux, qui est au www.rendezvouscitoyenkyoto avec des traits d'union.org et bien sûr sur notre site à nous, radiodelirium.net. Il y a également, j'aimerais aussi attirer votre attention sur le site du Centre québécois d'action sur les changements climatiques. Il y a déjà tout là-dessus, sur ce site-là, pour vous faire une tête, tant au niveau de l'historique, pourquoi est-ce qu'on en est, pourquoi on arrive à Montréal en novembre 2005, puis on fait une rencontre post-Kyoto, Kyoto la suite. Donc, pour vous faire une tête là-dessus, et surtout voir, il y a une foule d'activités. Si vous voulez savoir ce que c'est les changements climatiques, ce que c'est le COP 11 qui s'en vient, Kyoto 101. Bref, une foule d'activités, vous avez dans la section activités du Centre québécois d'action sur les changements climatiques.
Peut-être rajouter aussi le Climate Action Network, qui est le penchant anglophone de l'organisation de la COP 11 et du rendez-vous citoyen, ou en tout cas de tout ce qui s'organise avec les groupes environnementaux. Au-dessus de combien? 3000 groupes environnementaux sont attendus à Montréal pendant la COP 11. C'est une délégation hallucinante de groupes et de tous les fonctionnaires qui s'en viennent aussi pour discuter pendant le rendez-vous officiel des Nations Unies. Mais il faut comprendre qu'à Montréal, ça va bouillonner, point de vue, bon, discussion sur le climat à la fin novembre.
Et nous aussi serons, bien sûr, les gens de Delirium Environnemental pour vous tenir informés. Il y aura même une section spéciale qui sera ouverte sur notre site Internet sous peu. On s'arrête ici. Au retour, on vous reparle de Kyoto. On fait le point sur les tractations Kyoto. This is it. Vous écoutez toujours Delirium Environnemental, le magazine d'information en environnement. Kyoto, donc le protocole de Kyoto sur les changements climatiques, un gros dossier, un dossier à l'ordre du jour ces temps-ci, et bien évidemment parce que c'est important. Les grosses tractations qui se passent présentement, tout le monde est là à tirer un peu la couverte de son bord. Ton idée là-dessus, Nicolas, entre autres, au sujet des grands émetteurs, mais d'abord, justement, il y a des choses qui sont passées au Québec et au Canada, entre le Québec et le Canada.
Ah oui, il y a de quoi faire rougir tous les organisateurs de la World Wrestling Federation, M. Mulcair et M. Dion, qui se sont échangés quelques coups cette semaine. Ça brasse et fort. Vous savez qu'en ce moment, on est en train de négocier au niveau fédéral et provincial comment on va arrimer nos stratégies avec les efforts qui sont demandés par Kyoto. Et vous savez que, bon, Ottawa est en train de négocier une entente fédéral provincial sur les changements climatiques. Tous ces négociations-là sont à huis clos en ce moment. On n'entend pas du tout parler de tout ça, donc c'est pas public. Donc, on connaît pas le contentieux qu'il y a eu exactement entre Mulcair et Dion, mais on peut s'en douter. Vous savez que Ottawa, en ce moment, a une stratégie qui est assez controversée, c'est-à-dire qu'on va demander plus à ceux qui peuvent faire plus pour lutter contre les changements climatiques. Et donc, on va pas focusser sur ceux qui émettent beaucoup de gaz à effet de serre, mais bien ceux qui ont déjà commencé ou qui sont déjà bien emboîtés dans la lutte au changement climatique. Vous savez que le Québec ressort du peloton de tête puisque on a emboîté le pas dans les années 70 avec l'hydroélectricité. Vous savez que l'hydroélectricité ne produit pas beaucoup de gaz à effet de serre, mais c'est clair que déjà là, le Québec essaie d'aller gagner des points sur la scène fédérale en disant, écoutez, nous autres, on investit depuis 30 ans dans l'hydroélectricité, on veut recevoir des crédits pour ça. Et bon, ça fait friser les cheveux à M. Dion parce que lui, avec son 10 milliards d'investis pour les changements climatiques, la stratégie Kyoto du Canada, ben aimerait ça aller investir dans des nouvelles stratégies et donc pas aller donner des crédits pour les stratégies du passé, vous me comprenez?
Ben tout à fait.
Tout à fait. Donc c'est un espèce de contentieux qui est en train de se passer entre le Québec et le fédéral, mais il faut comprendre que non seulement la tension monte entre Mulcair et Dion, mais il faut faire une différence entre les décisions d'affaires qui ont été prises dans les dernières années et les décisions environnementales qui ont été prises. Ça veut pas dire que dans les années 70, quand on a commencé à faire l'hydroélectricité, qu'on l'a fait vraiment parce qu'on savait qu'il y avait des changements climatiques qui s'en
viendraient.
Un des premiers points. Le deuxième point, c'est que M. Dion, il dit, écoutez, ça serait un très mauvais exemple à donner à la population qu'on essaye de sensibiliser de plus en plus pour aller de l'avant à la lutte au changement climatique, de dire, OK, asseyez-vous sur vos rognons si vous avez déjà fait des efforts, ne faites plus rien parce que vous allez être crédité pour ce que vous avez fait. Bref, on dit, c'est pas une très bonne stratégie de regarder le passé, il faut regarder l'avenir. Mm-hmm. Évidemment, lorsqu'on regarde l'avenir, on regarde l'Alberta qui est le plus grand émetteur au Canada, qui a augmenté d'ailleurs de 25% ses émissions de gaz à effet de serre depuis 1990. On regarde évidemment les sables bitumineux. On regarde aussi que les sables bitumineux, c'est un tiers de la réserve de pétrole mondiale. C'est le moteur économique du Canada. Et évidemment, toute la pression, toute l'attention est rivée sur l'Alberta. Par contre, on ne peut pas mettre un frein à l'activité pétrolifère de l'Alberta. Et c'est Dion lui-même qui le dit. On a vu l'augmentation des prix du pétrole dernièrement. La production mondiale, la consommation mondiale diminue. Mais pendant ce temps-là, au Canada, ça augmente la production en Alberta puisque les États-Unis sont avares de notre superbe sable bitumineux qui est si riche et si intéressant point de vue énergétique.
Polluant, hein?
Et si extrêmement polluant. Et point de vue gaz à effet de serre, c'est désastreux. Donc, on est en train d'essayer de négocier point de vue provincial pour s'assurer que l'économie reste en forme, puis ceux qui sont capables de faire plus feront plus. Et donc, ça fait évidemment monter la pression. Donc, évidemment, les prochains...
Tout ça dans un contexte parce qu'on n'a toujours pas de plan d'action pour les changements climatiques pour atteindre les objectifs du protocole de Kyoto. Donc, on a beaucoup
C'est qu'on a un plan d'action fédéral. Là, mm-hmm. on attend les plans d'action provinciaux. Il y a certaines provinces qui ont sorti leur plan, je crois. Le Québec n'a pas son plan encore.
Toujours pas.
Mais bon, il faut comprendre que c'est extrêmement complexe comme calcul. Et entre autres, les calculs impliquent la publication de l'inventaire, appelons ça l'inventaire. Inventaire des émissions des grands émetteurs.
Et ça pose problème.
Ça pose un gros problème parce que en ce moment, il y a plusieurs grands émetteurs qui refusent de donner lors de publication de leurs résultats. Vous savez qu'en faisant ces inventaires-là, on a pour but de donner aux Nations Unies le bilan du pays en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Et encore 64% des 322 installations qu'on considère grands émetteurs qui refusent, qui demandent la confidentialité au ministère de l'environnement, justement pour pas empêcher la productivité ou la rentabilité de l'industrie. On considère un volet de la loi de protection de l'environnement que les renseignements communiqués à Environnement Canada par le propriétaire d'une usine peuvent demeurer confidentiels si leur divulgation risque de nuire à ses affaires. Et donc c'est un petit volet ici qui pose problème puisque là on est en train de ralentir tout le processus de calcul et d'évaluation pour les grands émetteurs. Les principaux joueurs là-dedans, c'est drôle, hein, c'est Petro-Canada, entre autres Petro-Canada, qui d'ailleurs dans son bilan 2002, le dernier bilan qu'on a fait au Québec, la raffinerie Petro-Canada s'est retrouvée être la deuxième plus grande émettrice de gaz à effet de serre au Québec, avec, attendez, je vais vous sortir un chiffre de même, c'est toujours le fun, 1 202 000 tonnes de CO2 équivalent, donc c'est une quantité assez impressionnante qui l'a classé au deuxième rang, mais bon, pour voir cette situation, il y a des gros chiffres qui se négocient en ce moment, la pression monte et c'est c'est sous la table que ça se passe. Donc, on va suivre ça pour vous, évidemment, parce que les prochaines semaines vont être teintées de plusieurs annonces.
Oui, déterminantes pour l'évolution du climat planétaire pour les prochaines années. Merci beaucoup, Nicolas Mainville. Tu nous parleras peut-être un peu plus tard des initiatives régionales qui sont prises et qui sont peut-être positives, parce qu'il y a ceux qui tirent la couverture du côté négatif, mais il y en a aussi de plus en plus qui
tout
disent, écoutez, on n'a pas un cadre légal pour le faire, mais on va le faire quand même, parce que c'est important.
Je reviens là-dessus.
L'environnement. Merci beaucoup. De retour à Delirium environnemental, on continue la revue de presse, revue de l'actualité en environnement, cette belle dernière semaine du mois d'octobre, non, la première du mois de novembre déjà. Ah, ça me rajeunit pas ça, c'est une autre histoire. On poursuit sur les initiatives régionales, donc des bonnes nouvelles dans le domaine de Kyoto, donc on continue de discuter des tractations autour du protocole de Kyoto et des différentes actions qui peuvent être prises. Donc certains grands émetteurs refusent de donner les chiffres qui concernent leurs émissions de gaz à effet de serre. Par contre, certains États états-uniens et provinces québécoises s'allie pour tirer la couverture du bombard.
Ben, on vous en a déjà parlé. Vous savez que le gouvernement fédéral états-unien est très lent point de vue changement climatique, même qu'il refuse, vous savez qu'il a refusé de ratifier Kyoto. Mais certains États états-uniens sont très proactifs et il y a eu création d'une initiative qui, en anglais, c'est Regional Greenhouse Gases Initiative, qui est, l'initiative régionale des gaz à effet de serre, qui rallie à la base, 8 États états-uniens et certaines provinces de l'Est du Canada se sont mis ensemble. Certains sont observateurs, d'autres sont acteurs. Mais la nouvelle cette semaine, parce que vous pouvez vous renseigner là-dessus, il y a plein d'informations sur plein de sites Internet. De toute façon, vous allez tout avoir ça sur notre site Internet au www.radiodelirium.net. Mais cette semaine, ce que je vais vous parler, c'est du New Jersey qui a finalement passé une loi pour classifier le gaz carbonique, le fameux CO2. Comme polluant. Vous savez que on considère le CO2 comme n'étant pas un polluant, mais bien comme un rejet.
Un rejet.
Il n'y a pas un titre qui me vient en tête particulièrement. Mais bon, de catégoriser le CO2 comme étant un polluant, ça fait qu'on peut administrer la même législation qu'on est en train de faire à d'autres sortes de polluants. Et donc, ça accélère évidemment le processus de lutte contre les changements climatiques. Et le New Jersey semble très proactif là-dedans, très impliqué aussi dans justement cette initiative régionale sur les gaz à effet de serre et vise à créer ce grand marché, ou en tout cas ce marché régional d'échange de crédits de carbone, un peu comme ce que Kyoto est en train d'instaurer. Ben là, on le ferait plus au niveau régional avec des ventes de crédits de carbone pour les entreprises qui ont fait des meilleurs efforts et qui ont réussi à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Mm-hmm. Pour l'instant, ça considère seulement les centrales thermiques et donc les grands émetteurs de gaz à effet de serre, mais éventuellement ça va pouvoir s'appliquer à plusieurs industries. Donc une très bonne nouvelle, le New Jersey qui ouvre le bal et on espère que ça va être un effet en chaîne.
Que ça ait un effet d'entraînement.
Exactement.
Petit bonhomme de neige deviendra gras. Maintenant, il n'y en aura plus, les changements climatiques, ça fond.
Et voilà. Okay, donc, ça rentre le 21 novembre en action.
On se souvient qu'ici au Canada, le gouvernement du Canada, justement, nous invite à relever le défi d'une tonne, c'est-à-dire chacun des citoyens et citoyennes à faire leur part et d'essayer chacun de réduire, chacune, bien sûr, de réduire nos émissions par plein de petits gestes quotidiens, ceux qui veulent s'en informer. C'est une belle façon, justement, de changer le monde tranquillement, mais sûrement, c'est en changeant nous-mêmes nos comportements. Une chose qu'on doit changer, notamment, c'est la façon dont on se transporte en milieu urbain. On en a parlé. D'ailleurs, de belles annonces ont été faites. On voudrait investir une somme colossale d'argent dans les trains de banlieue. Mélanie.
Oui, bien, en effet, une nouvelle intéressante. Aujourd'hui même, on nous raconte, on parle de l'Agence métropolitaine de transport, l'AMT, parle d'améliorer le service aux usagers concernant le train de banlieue, entre autres. Donc, favoriserait justement des nouvelles gares. On mettrait, par exemple, à l'Université McGill, aussi sous l'Université de Montréal au CEPSUM pour faciliter l'accès aux universités des gens plutôt en périphérie et également améliorer le transport en commun niveau train de banlieue encore une fois mais vers les banlieues Saint-Jérôme-Blainville de l'autre côté Repentigny-Mascouche. Donc il parle d'un montant en fait de 824 millions de dollars.
Donc c'est un souhait intéressant, 824 824 millions de dollars pour les trains de banlieue, mais à ma connaissance, on peine, c'est de peine et de misère qu'on arrive à financer les transports en commun qui sont déjà existants. Donc, c'est surprenant. Il y a tout lieu de se demander pourquoi l'AMT, pourquoi à ce moment-ci, et est-ce que c'est dans l'optique d'un plan de transport qui soit intégré de la Ville de Montréal?
C'est quoi l'échéancier qu'ils ont donné pour l'atteinte de ces objectifs-là? Est-ce qu'il y avait une stratégie détaillée ou c'est vraiment on annonce un intérêt à investir ou
Pour l'instant, en fait, je pourrais pas, faudrait que je creuse le dossier pour vous, mais en fait, on disait que c'était juste un projet qui était présenté, qui serait présenté jeudi prochain au maire des régions.
Ah,
donc, il n'y a rien encore de fait pour l'instant.
Et pourtant, ça fait la première page de la presse lundi le 31 octobre.
Ben, c'est intéressant, c'est clair que c'est une bonne nouvelle si ça voit le jour. Faut comprendre que le système de transport en commun est déficient dans la région montréalaise. Et puis, c'est clair que le développement de trains de banlieue, je veux dire, c'est la solution pour désengorger les autoroutes et surtout réduire les émissions et de polluants et de gaz à effet de serre.
Ben, fait intéressant. En fait, j'ai juste noté ça. Il disait que dans l'article entre 1996 et 2004, l'intérêt des gens de la banlieue, justement, pour le train avait été faramineux. C'est passé de 6,9 à 14,5 millions de passagers.
Mais il y a l'augmentation aussi du service qui a participé à faire qu'il y avait plus de gens qui rentraient. Bonne nouvelle, en souhaitant que ça va se concrétiser. Une autre bonne raison de s'intéresser au projet de Projet Montréal, justement, puis d'aller voir, justement, ce qu'ils proposent pour améliorer les infrastructures de transport urbain à Montréal.
Tout à fait. D'ailleurs, je vous encourage, sans vouloir faire de la plug politique, je pense que ça vaut la peine d'aller voir le programme environnemental et le programme de transport de Projet Montréal. Tout est sur leur site internet, projetmontréal.org. Ils font d'excellent travail. Mais encore une fois, on est un groupe tout à fait apolitique. Ici, on fait de la radio. Là,
mais on aime bien la veuve et l'orphelin et le pauvre abandonné de tous. Et comme on sent que Projet Montréal, on a quand même des allégeances communes qui sont un transport urbain viable, durable, intelligent.
Et voilà. Hey, j'ai-tu le temps pour une dernière petite nouvelle?
Oui, bien sûr.
Vous savez que pendant qu'on parle de changement climatique puis de gaz à effet de serre, comme ça, je peux pas m'empêcher d'en plugger une petite sur les super stats qui sont sortis sur 2005 et le mois de septembre. Vous savez que le mois de septembre est le mois le plus chaud jamais enregistré sur la planète. En fait, le mois de septembre 2005, on s'entend, donc c'est le septembre plus chaud jamais enregistré. On a battu tous les records. 30 jours furent ainsi les plus chauds jamais enregistrés depuis 1880. C'est des anomalies de température globale moyenne à la surface de la Terre, des océans, qui ont sévi pendant le mois de septembre. On parle d'une augmentation ou en fait une moyenne de 0,63 degrés Celsius au-dessus de la moyenne de long terme de 1880 à 2004. Donc, c'est quand même assez impressionnant. C'est le premier... En fait, on bat tous les records et le deuxième plus chaud était 2003. Donc, on voit une certaine tendance un peu...
au réchauffement.
Ouais, tendance au réchauffement. Et les États-Unis aussi qui ont battu plusieurs records de sécheresse, des augmentations de température assez ahurissantes. Si ça vous tente d'aller voir ces statistiques-là, c'est sur notreplanète.info. Vous allez tout avoir ça sur notre site Internet.
Bien sûr, autre chose que vous allez retrouver dans les liens mentionnés cette semaine, le lien pour la fondation David Suzuki. Vous savez, David Suzuki est en ville cette semaine. C'est pas pour rien qu'on entend beaucoup parler de cet homme, c'est parce qu'il fait un travail exceptionnel en environnement. Il est connu, mais pour de bonnes raisons. Si vous voulez aller vous informer sur le site de la Fondation David Suzuki, vous allez notamment trouver un document qui s'appelle « La durabilité en une génération ». Et c'est un document bien intéressant qui, justement, propose des solutions et des alternatives pour enfin arriver à atteindre ces objectifs de durabilité, dans le sens de durabilité étant la traduction bizarre de viabilité de nos modes de développement. Et même développement, c'est un mot qui est remis en question par certains intellectuels. Eux autres sont jamais contents, critiquent tout le temps. Franchement, ce n'est pas le quoi. On s'arrête ici, on va écouter Deba Caracol, Droit devant. Enfin, on vous l'avait promis la semaine passée. Yay! Finalement, cette semaine, on va peser sur le bon bouton. C'est avec la traite 4 qui va partir. Et donc, ce sera Droit devant. Au retour, on poursuit la revue de presse, revue de l'actualité.
Dans nos jardins, l'amour s'est noyé machine droit devant. On se dit que l'on doit, puis on nous dit ce que l'on croit. C'est pour nous que l'on se penche sur le nid de nos détresses, couvrant nos instants de tristesse, paranoïa de la paresse. Des millions de naufragés, des millions de funambules au crochet de leur malheur, le jalouse et le bonheur. Entre celui qui n'a rien et celui qui veut tout, lequel des deux est le plus pauvre, c'est la question que je me pose.
On ne voit sentir, sans le vouloir déraciner l'espoir de ceux qui veulent croire. Dehors il y a la nuit qui me murmure qui je suis. Sans être assuré, je ris sur la corde raide, je vis. Je ne suis pas encore aveugle, mais pourtant je ne proteste pas de temps. Trop souvent je me laisse porter par le vent. Je me laisse porter par le vent, ligoté par derrière et bâillonné par le vent. Droit de...